d'Éden à Saint-Hyacinthe, c'est le paradis des plantes. Passez nous voir. On a tout ce qu'il faut pour fleurir et embellir votre extérieur directement du producteur. Serre de l'Éden.com.
Au réseau Cogeco Média. Cogeco Média. Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Québec maintenant, 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 avec Philippe Quentin.
À propos de la rencontre entre Donald Trump et Mark Carney demain à la Maison-Blanche, hein, ça va être autour de 12h45. Il y a Danny dans la messagerie texte qui nous écrit « Est-ce que Carney pourrait se permettre de dire à Trump en lui serrant la main et en le regardant dans les yeux « Je ne veux plus jamais que vous dites que vous voulez faire du Canada le 51e État. » Et c'est un bon commentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. Mm-hmm. Mais y aller frontalement comme ça, c'est peut-être pas la façon de faire, mais j'ai l'impression que s'il le redit en conférence de presse par la suite, « Je veux faire éventuellement du Canada le 51e État », Mark Carney n'aura pas le choix. Il devra dire fermement « Non, il n'en est pas question, il pourra pas laisser passer ça, parce que sans ça, ça va être un mauvais début pour lui comme premier ministre du Canada. Alors, imaginez la pression sur ses épaules. Valérie Leboeuf est là pour les nouvelles. Valérie, oui, c'est vraiment une journée Trump aujourd'hui, oui. Parce que hier soir, il a annoncé qu'il voulait mettre des tarifs en place dans l'industrie du cinéma, et ça pourrait faire très mal à notre industrie québécoise.
Oui, le président américain, comme tu l'as dit, on parle de tarifs de 100% aux films, oui, qui ne sont pas entièrement faits aux États-Unis. Le PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Stéphane Cardin, qui a réagi aujourd'hui, il souligne que la production étrangère représente, dans les bonnes années, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires chez nous, soit environ l'équivalent de la production d'ici, qui risque aussi d'écoper.
On peut aussi se poser la question sur l'impact qu'aurait une diminution marquée de la production étrangère sur la capacité du Québec à maintenir des infrastructures à la fine pointe, incluant des studios, des équipements de tournage dernier cri, nos équipes de production. Est-ce que cela pourrait même avoir un effet sur notre production nationale?
Ça, c'est inquiétant, là, parce que c'est notre production et c'est des jobs aussi, là.
Aussi.
L'administration Trump veut payer les migrants illégaux pour qu'ils quittent volontairement les États-Unis.
Oui, en plus du billet d'avion, le département de la Sécurité intérieure indique qu'il paiera 1 000 à ceux qui vont prouver qu'ils sont retournés dans leur pays. Ces personnes peuvent annoncer leur auto-expulsion sur une application et ne seront ainsi pas ciblées par les agents d'immigration pour les détentions et expulsions de migrants. Donald Trump veut ainsi que des millions de migrants quittent le pays.
But what we thought we'd do is a self-deport, where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from.
A beautiful flight, hein? Un vol magnifique vers le pays d'où ils viennent. Ouais. Les partis d'opposition exigent le maintien de l'urgence de Fortierville. Ça, c'est dans les régions du centre du Québec.
Tout ça, Philippe, en raison d'une pénurie de médecins. L'urgence est fermée de 20h à 8h en semaine et tous les week-ends. La mairesse de Fortierville, Julie Pressé, et le préfet de la MRC de Bécancour, Mario Lyonnais, gardent cependant espoir que la situation change.
Pour le moment, l'information qu'on a, mais on n'a pas de confirmation officielle, c'est qu'il y a une certaine sécurité pour l'été. À quel point, on n'a pas de détails.
Tu sais, on est à jour, radiographie, prise de sang, on a tout. Il manque quelques médecins, si on avait des médecins dépendants ou des médecins qui étaient aidés, là, mais je pense que notre urgence resterait là.
Et les activités de pêche à la Société des établissements de plein air du Québec, là, ce qu'on appelle la CEPAC, eh bien, ça risque d'être perturbé.
Oui, parce que des syndiqués annoncent 3 jours de grève à compter du 15 mai prochain. Le litige porte sur les salaires, l'ancienneté en cas de rappel au travail, la mobilité et des garanties d'heures de travail, puisqu'il s'agit principalement d'employés saisonniers. Et le président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, espère que ces 3 jours de grève vont faire débloquer les négociations. On l'écoute.
C'est le premier coup de semence qu'on envoie avec des moyens de pression lourds. D'autres moyens de pression lourds avant où on a passé, où on a fait valoir notre présence à travers des salons de chasse et pêche, à travers des choses. Ça ne semble pas l'avoir fait débloquer quoi que ce soit. Donc, malheureusement, on se doit d'aller une coche au-dessus. Et là, c'est une possibilité ou un potentiel de grève de 3 jours qui va venir perturber l'ouverture de la pêche.
Ça risque de faire des mécontents.
Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Valérie.
Bonne soirée,
on se retrouve demain. Bonne soirée.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir, on fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez le Québec maintenant. Au réseau. balado Cogeco Média. Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 18h05, c'est un très agréable 23 degrés à Montréal. Aujourd'hui, c'est partiellement nuageux. Ce soir et cette nuit, un minimum de 11 degrés, peut-être des averses au cours des prochaines heures. Demain, ben, somme toute, une belle journée avec un maximum de 22 degrés et 30 % de chance de pluie. Il y aura des averses, par contre, mercredi au jeudi, et jeudi, pardon, mais on prévoit du soleil vendredi, samedi, et dimanche, avec des journées ensoleillées. Donc, le printemps semble enfin arriver. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Mario Langlois vient d'entrer en studio. Salut, Mario.
Philippe.
Est-ce que tu as écouté le match entre les Jets de Winnipeg
et celui de samedi également? Oui, les deux matchs, les deux matchs du week-end, honnêtement, c'était de deux grands crus comme fin de première ronde. Tu peux difficilement. Je pense que quelqu'un sortait la stat que de tels retours, je pense que c'est survenu 3-4 ans en 100 années d'histoire, puis c'est survenu deux fois en pas tout à fait 24 heures.
Ouais. C'est absolument incroyable. Ouais. Les Jets, moi, je l'avoue, je suis allé me coucher après. J'ai fermé les émissions à tout le moins après la deuxième période. Ouais. Les Jets avaient péniblement réussi à couper l'avance des Blues de 2-0 à 2-1. Puis là, en toute fin de deuxième, ils donnent un mauvais but, 3-1. J'ai dit, c'est terminé. Et ils marquent deux buts dans les deux dernières minutes de jeu. Le dernier, à quoi, 2 secondes de la fin. Et là, ils vont gagner en deuxième période supplémentaire. Le party à Winnipeg, on voyait les images. C'était incroyable.
C'était
de voir
phénoménal.
Ça.
Et je vous entendais plus tôt avec Mika et Catherine parler de la pertinence où parfois on se demande un peu pourquoi enlever le gardien, pourquoi l'enlever si vite. Ben, tu sais, ça marche pas tout le temps, mais il y a des précédents, puis c'en est un autre. Et sais-tu quoi? C'est sûr et certain que c'est un outil de coaching pour n'importe quel entraîneur, n'importe quel niveau compétitif, Ligue nationale l'an prochain quand on va pratiquer, parce que c'est une phase de jeu qu'on pratique, le 6-65.
Ouais.
Parce que on joue, je dirais pas aussi souvent à 6-5 en avantage numérique, mais il y a beaucoup de matchs qui se terminent à 6-5. Alors, c'est vraiment une phase de jeu qu'on pratique et ça peut faire une énorme différence. Et hey, tu t'imagines la différence? Et
là, c'est incroyable.
3 clubs canadiens sur 8, c'est peut-être la meilleure chance depuis fort longtemps.
On n'a pas vu ça depuis 2004.
Merci de me fournir l'année.
Su que 3 équipes canadiennes sur 8, là, à partir de la deuxième ronde, c'est la première fois depuis 2004, je viens de le dire, ce qui signifie que c'est la première fois depuis que le plafond salarial a été instauré dans la Ligue nationale de hockey. La dernière fois que c'est arrivé, il n'y avait pas de plafond salarial. Et les équipes canadiennes avaient souvent de très gros budgets, parce que, en tout cas, les plus gros marchés, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent.
On dépensait à la hauteur de nos revenus,
Alors,
une observation fort
intéressante. Et là, on se retrouve avec 3 équipes. Tu sais qu'à l'émission, on a décidé d'adopter une équipe pour le reste des séries éliminatoires. Oui, on a demandé aux gens, en début d'émission, laquelle des 3 équipes canadiennes on devrait adopter.
Ça.
Et puis, on a choisi... Est-ce qu'on a un indice sonore qu'on pourrait donner à notre ami Mario? On va rechercher ça. Et je pense que si on retrouve l'indice sonore, tu vas savoir de quelle équipe il s'agit.
À Winnipeg, les nuits sont longues, tu me la
deviens. Un point bonus si tu retrouves le chanteur.
Pas Pierre Lalonde.
Ben oui, c'est Pierre Lalonde, tout à fait. Pierre Lalonde.
Ah, OK. Bravo. J'ai cherché loin dans le disque dur pour les intonations.
Ben, c'est
là.
Bien. Alors, c'est maintenant l'équipe chouchou du Québec maintenant.
J'aimerais aimé ça que Pierre Lalonde nous raconte l'histoire derrière la chanson.
Alors, on va parler un petit peu plus des Jets de Winnipeg.
Fait que c'est un choix collectif. Là. C'est le Québec maintenant et derrière les Jets.
Meeker était pour. Catherine n'avait pas véritablement... Catherine a dit que son cœur était brisé avec la défaite du Canadien. Donc, elle n'a pas voulu participer au choix de l'équipe. Meeker et moi, on était pour les Jets. Et dans la messagerie texte, il y a eu des votes pour Edmonton, il y a eu des votes pour Toronto. Mais la grande majorité des votes, ça a été pour les Jets de Winnipeg. Alors, notre choix a été.
J'ai-tu un gars qui est en train. Est-ce qu'il faut que je me mouille, moi, là?
Vas-y donc.
Mais écoute, ça va peut-être te paraître drôle, mais autant. Mais écoute, c'est un bon choix, les Jets. C'est difficile, mais là, juste pour un peu faire différent, les Oilers sont allés en finale l'an passé. Puis je trouve que les Leafs sont presque pitié. Tu sais, je trouve que ça fait presque pitié. Non, mais pas, je le dis même pas de façon péjorative. Si c'est les fans des Leafs qui me huent virtuellement en ce moment, ça sent que je serais content qu'ils avancent en série puis qu'on change la trame narrative. C'est quand même tout un marché de hockey.
Ouais.
Bon, on pourrait parler des autres affinités qu'on a moins, mais il reste que moi, j'aime bien Toronto aussi.
Je pars pour Toronto aussi, puis Edmonton aussi, puis ça serait fun de revoir Toronto en finale de la Coupe Stanley représentant l'Est et de voir Winnipeg ou Edmonton représentant l'Ouest. Et ça peut arriver, là. C'est possible.
C'est-tu quoi? Une finale Edmonton-Winnipeg-Toronto.
Ouais.
C'est-à-dire que les codes d'écoute ne seront pas les meilleurs de l'histoire du marché américain.
Mais c'est
du
Canada.
C'est bien correct. Ouais. On est capable de vivre avec ça. Et permets-moi, juste avant qu'on plonge dans le bilan, j'imagine, de M. Hughes et Gorton. Tu sais, hier, Winnipeg, un retour là incroyable dont on va parler dans plusieurs années encore, très certainement. Puis, moi, je suis pas un parieur sportif, mais quand tu égalises dans un tel scénario en fin de match, j'aurais presque gagé ma maison que les Jets allaient gagner. C'est comme le Canadien, quand ils ont gagné en fin de match contre Ottawa avec une seconde et demie à faire, puis une rondelle qui rebondit sur la palette de Suzuki, tu dis, quand tu égalises dans des circonstances de même, je sais pas c'est quoi les probabilités scientifiques puis les mathématiques là-dessus, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est impossible que tu perdes quand ça arrive, ouais. Et ça s'est confirmé hier.
Les dieux du hockey sont de ton côté, là,
et
ce soir-là.
Et Ron Tannen, en matière de performance, d'anthologie, sous toile de fond.
Rappelle-nous, pour les gens qui sont moins familiers, Mario, l'histoire de Mikko Rantanen cette année, c'est absolument hallucinant.
Mikko Rantanen est un des alliés de puissance les plus dominants de la Ligue depuis à peu près qu'il est dans la Ligue, un leader de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas avec lui. Un jour, on saura peut-être toute l'histoire. Il y avait des négos qui n'allaient pas au goût de l'Avalanche.
On voulait renouveler son contrat.
Il y avait des discussions entamées, on le disait très gourmand. L'Avalanche, selon les rumeurs, était prêt à aller jusqu'à 12.5, j'ai même entendu le chiffre de trait. Peu importe, ça aboutit pas. Puis à un moment donné, sans trop d'annonces, sans trop d'avertissements, puis même un petit peu, ça a pris, je pense, Rantanen par mégarde, il était changé aux Hurricanes de Caroline. Il arrive là, il est un petit peu à babouine. En tout cas, c'est ce que Brind'Amour nous laisse savoir de l'extérieur. Lui, Rantanen, il dit qu'il a été vraiment un pro là, tout le long de son séjour-là, mais avec son agent, il en vient rapidement à la conclusion que son avenir, ce n'est pas en Caroline que ça va se poursuivre. Alors, les Hurricanes sont placés devant un choix. Est-ce qu'on risque le tout pour le tout de gagner la Coupe à nouveau pour la première fois depuis un bout de temps avec Rantanen, ou nous l'échangeons parce que là, on va avoir de l'air fou, on va le perdre pour rien. Il décide de l'échanger contre l'élément clé de cet échange-là, c'est Logan Stankoven, un diminutif format l'antithèse de ce que Rantanen est, mais un très bon joueur de hockey, qui est issu du système de filière des Stars de Dallas, qui ont tout un système sans plonger dans le fond nécessairement volontairement, tout à leur hommage aux Stars. Mais là, l'Avalanche n'avait pas prévu qu'il était pour revenir face à eux en première ronde des séries dans l'uniforme de l'ennemi. Et là,
c'est incroyable.
Le début de série a été quand même ordinaire pour Rantanen individuellement. C'était quand même bien partagé entre les deux équipes. Mais à partir du match 5, surtout 6 et 7. Écoute, regarde, là, je t'en parle, puis tu sais, je l'ai vraiment regardé. Ça t'a donné des frissons tellement c'était une performance. Tu sais, quand un gars décide, c'est pas vrai qu'on va perdre à soir. C'est 3 à... Là, mais moi, je suis mêlé avec le match d'hier de Winnipeg, mais bref, Rantanen, les Stars sont dans une mauvaise posture contre l'Avalanche. Je pense que c'est 2-0. Si ma mémoire est bonne, c'est 2-0 en début de troisième. Je pense que c'est exactement ça, Philippe. Et là, Rantanen marque un but. Le deuxième but, il est un peu chanceux, mais c'est un superbe effort qui permet d'être chanceux. Tu sais, quand on dit on récolte ce que l'on sème, du derrière du filet, il essaie de lancer, ça redévie sur le patin de Samuel Girard dans le net. C'est 2-2. Et il s'en va marquer, toi, dans un filet désert, 3 buts en troisième période contre le club qui vient de l'échanger il y a quelques mois à peine. Trouve-moi un parallèle d'histoire d'un gars qui revient hanter son ancien club aussi vite que ça, de façon aussi majestueuse et impressionnante. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est juste des tours du chapeau en troisième période dans l'histoire de la Ligue. Philippe, tu vas voir, ça ne court pas les rues. Kivi Ranta l'avait fait il y a quelques années. Mais pas un scénario de vengeance en plus. Là, non,
c'est comme si, par exemple, le Canadien avait un joueur avec qui il n'était pas capable de s'entendre. Il l'échangeait quelque part au mois de janvier aux Ducks d'Anaheim. Puis là, les Ducks d'Anaheim essayent de s'entendre avec lui. Ça marche pas trop. Décide de l'échanger aux Bruins de Boston. Puis là, c'est Canadien Boston en première ronde. Puis l'ancien vient de battre. Hey, ça fait mal à la balance.
Ça fait mal, tu dis.
Ça fait très wow. Mal. OK, Mario, on va faire une pause. Puis au retour, plein feu sur les points de presse aujourd'hui de Jeff Gorton et Kent Hughes.
Qu'est-ce qu'on fait face à un monde où tout bascule? C'est à qui de prendre les choses en main pour bâtir notre avenir? C'est à nous. C'est à nous de faire croître notre richesse, notre fierté, notre électricité. Éolienne, hydroélectrique et solaire qui fait l'envie du monde. C'est à nous d'avoir le courage d'investir toutes nos énergies qui se calculent bien au-delà des mégawatts. C'est à nous d'accélérer notre plan. Un plan qui assure notre autonomie énergétique. À nous. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Hydro-Québec, c'est à nous.